On dit que l'Esprit Saint, c'est le grand inconnu. Et parfois, c'est vrai, même si beaucoup se réclament de l'Esprit Saint, il faut avouer qu'on lui a coupé les ailes. On l'a réduit souvent à un élément d'exaltation, qui se limite à provoquer un état d'esprit, un état d'âme, d'euphorie, et voilà. Et on oublie, par exemple, que dans les dons de l'Esprit Saint, il y en a plusieurs qui ont rapport à l'intelligence humaine. Parce que nous ne pouvons pas nous sauver sans utiliser l'intelligence. Quand Dieu nous appelle par sa parole, quand il nous parle, il y a toute une Bible pour s'épanouir, si vous voulez, eh bien, il fait appel à notre capacité de comprendre, à notre intelligence. Et parmi les dons de l'Esprit Saint, il y a des dons très intellectuels, les dons d'intellect, il y a les dons de sagesse, il y a les dons de conseil, et il y a les dons de science, dont l'Évangile aujourd'hui nous parle, sans les nommer. Mais ce n'est pas la science des scientifiques, c'est une science qui va plus loin, qui nous enseigne à mesurer, à capter la beauté et la valeur des choses créées, mais aussi à mesurer notre relation avec les choses de ce monde de manière qu'il puisse nous aider à gagner la vie éternelle. Et donc, ces dons des sciences nous apprennent les caractères passagers de toutes les réalités créées. J'ai les dons des sciences quand je fais usage de mon temps pour gagner la vie éternelle, de mes qualités pour gagner la vie éternelle, de mes moyens pour gagner la vie éternelle. Je suis touché dans mon cœur quand je sais bien me servir des choses de ce monde pour faire la volonté de Dieu. Parce que le premier écueil, c'est d'imaginer que notre relation à l'argent ne toucherait pas notre vie spirituelle. Eh bien, la vie spirituelle n'est pas quelque chose qui se passe simplement à l'intérieur de l'Église. La vie spirituelle se met en pratique quand je vais au boulot, dans les discussions en famille, quand je prends des décisions, quand je me rapporte aussi au bien matériel. Jésus dit, vous êtes les enfants de la lumière. Mais les enfants de ce monde, ils sont plus astucieux entre eux que les enfants de la lumière. Et il nous donne une parabole magnifique. Parce qu'elle nous provoque. Elle provoque notre intelligence. Dans cette parabole, il y a un gérant, un administrateur qui est malhonnête. Et un jour, le patron, il a découvert ça. Il dit, je vais te virer, tu dois rendre compte. Et quand il voit que son temps est fini, il dit, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir survivre? Alors, il utilise sa situation, il appelle les débiteurs de son maître, il réduit les dettes, il se fait des amis malhonnêtement. Mais Jésus fait l'éloge de cet homme astucieux parce qu'il a su se servir de ses moyens pour arriver à ses fins. Dans cette parabole, comme dans tout l'Évangile, nous avons deux choses, une vision une vision de la réalité éclairée par la foi, et notamment ici par les dons des sciences, et une invitation à l'action. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui croit que dans les nuées, la vie va se passer un peu mieux qu'ici, et qui vit dans une abstraction, dans une boule transparente dans les cieux. Le chrétien, il a une vision de la vie, et il prend des décisions, il agit en conséquence. Du moins, c'est ce que Jésus essaye de nous faire faire. Quel est le regard que la foi nous donne sur les biens de ce monde? Et dans les biens de ce monde, aujourd'hui, il faut dire, voilà, le temps que je passe devant mes écrans, le temps que je passe à servir à la maison, le temps que je passe pour faire les biens autour de moi. Le temps, c'est une des valeurs, mais voilà, comme le temps, on ne le voit pas. Mes qualités, il y a plein de gens qui sont bricoleurs. Est-ce qu'ils bricolent pour eux? Ils pensent aussi à se mettre au service des autres. Dans la paroisse, par exemple, on a besoin de bricoleurs. Il y a plein de choses à faire. On a besoin de gens qui ont un peu de temps pour l'accueil, pour la visite des malades, pour les différents services. Qu'est-ce que nous faisons de notre temps, de nos qualités, de nos compétences? Bien, on peut dire aussi qu'est-ce que nous faisons, quelle est la vision que nous avons d'abord sur les biens matériels, sur l'argent. Parce que l'argent, on peut dire, symbolise et rend concret toutes les autres compétences, toutes les autres biens. Alors Jésus nous dit, il parle de l'argent comme l'argent malhonnête. Pourquoi? L'argent est mauvais? Non. L'argent lui-même, il n'est pas mauvais. Il se rend malhonnête par les biais d'une usurpation, c'est-à-dire il prend la place qui ne lui revient pas. Et ça peut arriver, voilà, quand je prends un poste qui n'est pas le mien. Et ça arrive avec l'argent aussi, quand on lui accorde une valeur définitive, qu'il prend la place de Dieu. Et on ne pourra pas servir Dieu et l'argent. Comment savoir si l'argent a usurpé la place de Dieu dans ma vie? Jésus parle de l'argent comme un bien qui ne nous appartient pas. Il dit, l'argent malhonnête, faites les biens, faites-vous des amis avec ce qui ne vous appartient pas, pour que vous héritiez un jour les biens qui vous appartiennent. Autrement dit, frères et sœurs, je ne peux pas me servir des choses de ce monde sans prendre conscience qu'on est des passages. Et ça, aujourd'hui, on ne veut pas en parler. On ne veut pas y réfléchir. Et alors, on commence à être dans la contrainte de la possession des biens de ce monde. Et on perd la liberté. Parce que le risque, l'enjeu, c'est toujours spirituel. Si je meurs avec mon compte en banque gonflé, ça veut dire que je n'ai pas fait les biens autour de moi, je n'ai pas bien administré, et je me suis consacré à accumuler. Si quand j'ai un peu d'argent, à la place de dire, voilà, il y a des gens qui ont moins du nécessaire, moi, il m'arrive d'avoir plus de ceux dont j'ai besoin. Qu'est-ce que je fais avec ces surplus? J'achète des bijoux? J'achète une maison plus grande, même si je n'en ai pas besoin? J'achète une voiture plus puissante? Quelle est ma pensée? Quelle est la réaction de mon cœur? Est-ce que j'ai peur de manquer? Est-ce que je mets ma sécurité? Voilà, je répète, l'enjeu, c'est spirituel, c'est intérieur. C'est ce que nous devenons. Dans la vision de Jésus, les choses de ce monde sont transitoires. Nous devons nous en servir pour un but. Et voilà la deuxième partie, l'action. Qu'est-ce que Jésus nous dit? Faites-vous des amis qui vous ouvriront la porte du ciel, du paradis. Parce que dans la tradition chrétienne, la justice dont a tellement besoin le monde ne s'accomplit pas seulement à partir des actes du gouvernement, du roi, mais c'est chacun de nous dans les quotidiens qui fait un peu la justice, qui ouvre les yeux autour de soi, qui apprend à reconnaître dans les pauvres la présence de Jésus. Et je dis les pauvres, c'est les pauvres d'argent, parfois c'est la solitude, parfois c'est d'autres besoins. Comme j'ai dit au début, nous avons des compétences qui peuvent aider les autres qui sont démunis. Faites-vous des amis avec l'argent. Quelle était l'habileté de ces gérants malhonnêtes? Et c'est ça que Jésus veut nous inculquer, je pense. Il faut pas attendre la dernière minute quand on n'a plus rien à faire. Cet homme malhonnête, il a été prévoyant. Il a anticipé. Il s'est activé pour arriver à ses fins. Et nous, avec les pauvres, surtout à Montchat ou dans des lieux comme ça, je ne peux pas attendre que les pauvres tapent à ma porte. Ça arrive très rarement. Quand j'étais en Égypte, les pauvres, je les voyais partout. Ici, ils sont un peu invisibles. Il faut que nous prenions l'initiative d'aller les chercher ou d'imaginer comment je peux me mettre au service des pauvretés qui nous entourent. Faites-vous des amis qui vous ouvriront le royaume des cieux.